dans le cadre du module numéro 18 les principes généraux de contrôle amenant à la consolidation. Nous avons vu également que les conséquences comptables de cette consolidation étaient extrêmement lourdes puisqu'elles amenaient, dans certains cas, les cas les plus fréquents, à agréger les états financiers des filiales et ceux de la maison mère. Pour cette raison, et également pour des raisons de gestion financière, certaines sociétés peuvent souhaiter déconsolider une partie de leurs activités, les loger dans des sociétés n'appartenant pas à leur périmètre de consolidation. C'est une pratique extrêmement fréquente, tout à fait légitime, mais qui a également connu un affichage publicitaire moins favorable dans les années récentes, puisque c'est ce que l'on retrouve en particulier dans le secteur bancaire sous le nom de titrisation. Il m'a donc semblé pertinent, dans le cadre de cette série sur la comptabilité et la lecture des états financiers, de revenir au moins rapidement sur les questions que pose cette déconsolidation et les modalités dont elle est encadrée en comptabilité. Le principe général d'une opération de déconsolidation est d'isoler des actifs au sein d'une entité en les assortissant éventuellement, mais pas nécessairement de passifs. On va donc créer une société, souvent à cette seule fin, on parle de société ad hoc, qui va accueillir ses actifs. L'objectif est que, bien souvent, la société mère, la maison mère à l'origine de l'opération, n'est pas à consolider la société ad hoc, sorte ses actifs de son bilan. Les objectifs que peuvent remplir ces pratiques sont multiples et sans être exhaustifs, on pourra revenir rapidement sur certains d'entre eux. Passons d'abord en revue la logique générale du mécanisme. Vous avez une maison mère, que voici, qui crée une structure ad hoc, que voilà. Que fait la maison mère? Elle a des actifs qu'elle va céder à sa filiale. Plus exactement à la structure ad hoc qu'elle souhaite le plus souvent d'ailleurs ne pas filialiser. Sortir de son périmètre de consolidation. En échange, ce n'est que justice, elle va recevoir de l'argent liquide. Je vais appeler ça du cash, c'est un anglicisme, mais ça présente l'avantage d'être plus court à écrire. Pour se financer, car il faut bien trouver de l'argent liquide, la structure ad hoc va émettre des dettes qu'elle va vendre sur le marché. Ça va être les fameux ABS, par exemple, dont on a beaucoup parlé à l'occasion de la crise financière, et il y a évidemment une partie de capitaux propres, appelé ça capital, qui va être apportée par certains investisseurs ayant des objectifs particuliers pour participer en capital à ces structures ad hoc. Dans l'opération, la maison mère a sorti ses actifs, elle s'est procuré de l'argent liquide et elle a permis le refinancement de ses actifs sur le marché. Que poursuit-on comme objectif quand on fait ce type d'opération pas nécessairement extrêmement simple à monter? Le premier objectif peut être la satisfaction d'exigences réglementaires. Ça va être en particulier vrai dans le secteur bancaire. Les banques sont soumises à des ratios de fonds propres. Ces ratios de fonds propres les obligent à trouver du capital en face des crédits qu'elles accordent. Le capital dont elles disposent est limité, l'accès au capital peut être onéreux, ce qui gêne leur activité. Eh bien, pour pouvoir continuer à prêter, elles vont prendre une partie de leur portefeuille de crédit et le vendre. Elles l'ont vendu, elles ne le consolident pas, elles n'ont plus de capital à mettre en face. Elles ont satisfait un objectif réglementaire. Vous pouvez également avoir pour souci d'alléger votre bilan, entre guillemets, de sortir une activité pour améliorer votre image. Alors l'exemple est de sinistre mémoire, mais ça va être le cas d'Enron, qui logeait dans des sociétés ad hoc, qu'elle ne consolidait pas, des actifs qui avaient des rentabilités insuffisantes ou qui présentaient des risques excessifs, permettant ainsi de présenter un bilan plus agréable à la vue des investisseurs. Vous pouvez aussi obtenir par ce moyen un financement à de meilleures conditions. Prenons le cas d'une grande société de fourniture d'énergie, par exemple, qui a un portefeuille client très important et très diversifié, puisque c'est une multiplicité de factures de très petits montants, et qui doit néanmoins financer cet emploi. Si elle va chercher des actifs sur le marché, si elle va chercher des capitaux sur le marché, elle va devoir payer un prix qui est représentatif du risque de l'ensemble de la société, qui peut être assez élevé. En revanche, si elle isole le portefeuille client à financer au sein d'une structure ad hoc, elle va pouvoir présenter un bilan extrêmement simple, formé d'un actif extrêmement diversifié et de bonne qualité, puisqu'adossé à des créances commerciales, et donc trouver potentiellement des sources de financement meilleur marché. On continue à financer le poste client, mais on le finance à de meilleures conditions. Constitution d'une structure pour accueillir des actifs peut être également, évidemment, la préparation à la cession d'une activité ou un moyen de faire entrer de nouveaux investisseurs qui ne souhaitent pas rester au sein de la maison mère. On voit dans tous les cas qu'il y a des situations où la déconsolidation va être une nécessité. Ça va être le cas pour satisfaire les exigences réglementaires, alléger son bilan. Dans d'autres cas, la déconsolidation peut être un produit accessoire de l'opération sans être une condition nécessaire. Le financement du poste client suppose la création d'une entité pour héberger ses créances clients qui soient lisibles par les marchés. La consolidation de cette entité n'est pas nécessairement recherchée, mais la déconsolidation n'est pas non plus le principal objectif. Déconsolidation d'une société créée pour préparer la cession d'une activité n'est pas davantage indispensable, du moins dans un premier temps. L'enjeu de cette déconsolidation est un enjeu extrêmement délicat. Un des noms évoqués jusqu'à présent suffit à comprendre toute la sensibilité. C'est qu'il y a sur le sujet un enjeu important de manipulation comptable de mauvaise foi. Et l'exemple emblématique est un trauma dont la profession ne s'est pas encore remise, c'est évidemment celui d'Enron, qui a logé de mauvaise foi des actifs dans des sociétés qu'il ne consolidait pas, masquant ainsi des activités beaucoup plus risquées que le profil qu'elle présentait aux investisseurs. La deuxième difficulté qui se pose, que la mise en œuvre de ce processus de déconsolidation suppose d'appliquer la notion de contrôle à des entités pour lesquelles sa définition est assez délicate. Contrôler une filiale qui a une activité, ce n'est pas la même chose que contrôler une structure ad hoc qui ne fait que porter des créances clients. Comment qualifie-t-on le contrôle de ce type de société? C'est une notion assez délicate. Et en dépit de cette délicatesse, c'est un processus qui a des conséquences comptables extrêmement lourdes, puisque vous allez présenter des profils financiers potentiellement radicalement différents en fonction de l'entrée ou de la sortie dans le périmètre de consolidation. Donc des opérations délicates ayant une longue histoire de manipulation comptable et de lourdes conséquences sur vos états financiers, on comprend que la déconsolidation soit un sujet extrêmement sensible pour les comptables. La conséquence, c'est quoi? Eh bien, c'est que l'encadrement normatif est relativement étroit et explicite. Il y a pour le moment, dans le cadre des normes internationales, essentiellement l'application d'une interprétation, d'où le nom inhabituel, SIC. Le SIC vient pour interprétation, SIC 12. Et bientôt, normalement, nous verrons l'application d'une notion de contrôle portée par la norme IFRS 10, qui permettra l'homogénéisation, quelle que soit la nature d'entité, de cette idée de contrôle. Alors, comment élabore-t-on ou comment pense-t-on le contrôle de ces entités ad hoc? La notion de contrôle des entités ad hoc, de ces entités à objet limité, repose sur l'idée que ces entités construisent ou font des activités pour le compte d'une autre. Et on va examiner le contrôle en substance, comme toujours, de manière économique. Alors, la question que l'on va se poser, c'est est-ce que vous avez le pouvoir de décision au sein de cette entité ad hoc? Question assez classique, qui souvent ne s'applique pas, puisqu'au niveau de l'entité, il n'y a pas de décisions qui sont prises. Le périmètre d'activité de l'entité est extrêmement limité, extrêmement étroit. Et en fait, aucune décision n'est prise. L'entité se contente d'avoir des crédits qu'elle encaisse et puis à donner sa trésorerie à une autre entité en vertu d'un contrat. Et point barre, aucune décision. Il y a souvent ce qu'on appelle autopilotage. Eh bien, on peut également observer des situations d'autopilotage. La question qui va se poser, c'est est-ce que vous en retirez la majorité des avantages? Est-ce que la prise de décision ou est-ce que l'autopilotage éventuellement mis en place dans le cadre des statuts vous permet de retirer la majorité des avantages de l'entité ad hoc? Deuxième aspect, même sans ce processus de décision qui vous permet directement via de l'autopilotage prévu par exemple dans les statuts d'en retirer des avantages, est-ce que vous supportez la majorité des risques? Ou, mais peut-être de manière un peu moins nette, vous bénéficiez de la majorité des avantages? Si vous supportez la majorité des risques, par exemple en cas d'impayé, c'est vous qui supportez le coût des impayés et pas le détenteur du titre de dette, eh bien, vous allez devoir consolider. Enfin, il y a l'aspect majorité des risques résiduels. Est-ce que vous supportez la majorité des risques résiduels? Prenez l'exemple d'une entité qui se finance par dette à hauteur de 80, par capitaux propres à hauteur de 20. Est-ce que c'est vous qui détenez les 20? Auquel cas, toutes les pertes vont s'imputer prioritairement sur ces 20. Puisque ce sont les capitaux propres qui supportent prioritairement les pertes, bien dans ce cas, vous supportez la majorité des risques résiduels, vous serez amené à consolider. Donc dans ces trois cas, pouvoir de décision ou autopilotage qui vous amène à la majorité des avantages, supporter la majorité des risques, bénéficier de la majorité des avantages, supporter la majorité des risques résiduels, vous amène à la consolidation, et cette consolidation se fait obligatoirement par intégration globale. C'est la démarche qui est retenue par la norme, plus exactement par l'interprétation SIC 12. Cette vision va changer ou a vocation à changer avec la mise en œuvre d'IFRS 10, qui est une nouvelle norme sur la consolidation qui a été adoptée par l'IASB, mais qui n'est pas encore retranscrite dans l'Union européenne en ce mois de juin 2012. IFRS 10 met en évidence trois critères pour décider d'une consolidation, par intégration globale toujours, vous êtes exposé à un rendement variable. Vous touchez un rendement et ce rendement n'est pas défini a priori, il est susceptible de varier comme varient les dividendes versés sur une action. À la différence des intérêts qui sont définis dans leur modalité de calcul ou dans leur montant a priori, le rendement variable n'est pas défini ni dans ses modalités de calcul, ni dans son montant a priori, l'exemple type étant le dividende. Vous êtes exposé à ce rendement variable. Vous avez un pouvoir sur l'entité. Et ce pouvoir vous permet de peser, d'influer sur le niveau de rendement variable. C'est si ces trois critères sont réunis, vous êtes en situation de contrôle et vous devez consolider. Vous êtes exposé à un rendement variable, vous avez un pouvoir sur l'entité, et il y a un lien entre votre pouvoir sur l'entité et le rendement variable. Grâce à votre pouvoir, vous influez sur le niveau de rendement variable. Si ces conditions sont réunies, quel que soit le type de société, que ce soit une société filiale classique ayant du personnel et une activité variée, ou une entité ad hoc, vous allez être amené à consolider. En raison de ces conséquences, la consolidation et son miroir, la déconsolidation, sont des opérations très étroitement encadrées. Quels que soient les efforts mis en œuvre par le normalisateur, quelle que soit la bonne foi que les sociétés témoignent ou développent à l'occasion de ces opérations, cela reste des opérations extrêmement sensibles qui vont modifier potentiellement très profondément l'apparence des états financiers de la société les pratiquant. C'est pour ça que ce sont des sujets qui font l'objet régulièrement d'évolutions normatives et l'introduction prochaine d'une nouvelle norme sur cette définition de la notion de contrôle est à cet égard assez représentative. Cela nous amène assez naturellement sur la question des évolutions normatives et ce sera le sujet de notre 20e et dernier module. Quelles sont les perspectives en matière d'évolution de lecture des états financiers et donc d'évolution normative en comptabilité ?